Alberto se rassit dans le canapé et regarda Sophie dans les yeux. La Renaissance introduisit avant tout une nouvelle conception de l'homme. Les humanistes de la Renaissance avaient une foi toute nouvelle en l'homme et en sa valeur, qui contrastait terriblement avec le parti pris du Moyen-Âge, qui ne voyait en l'homme qu'un pécheur. L'homme fut dès lors considéré comme quelque chose d'infiniment grand et précieux. Un des grands personnages de la Renaissance s'appelait Marsile Ficin. Il s'écria « Connais-toi toi-même, ô race divine déguisée en homme !» Un autre, Pic de la Mirandole, rédigea un « Discours sur la dignité de l'homme », chose impensable au Moyen-Âge où tout partait de Dieu. Les humanistes de la Renaissance partaient de l'homme lui-même. Mais c'est ce qu'avaient fait les philosophes grecs aussi? Oui, et c'est pourquoi nous parlons d'une deuxième naissance de l'humanisme antique. Mais l'humanisme de la Renaissance met plus l'accent sur l'individualisme. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains, nous sommes aussi des individus uniques, d'où le risque d'aduler le génie en tant que tel. L'idéal devint ce que nous appelons l'homme de la Renaissance, c'est-à-dire un être humain qui s'intéresse à tout ce qui a trait à la vie, l'art ou la science. Ce n'est pas un hasard si on se passionna à cette époque pour l'anatomie du corps humain. Comme dans l'Antiquité, on commença par disséquer des morts pour analyser comment le corps était constitué. Ce fut utile pour la science et pour l'art. On recommença, en art, à peindre l'homme nu, mettant ainsi fin à 1000 ans de pudeur. L'homme osait à nouveau être lui-même. Il n'avait plus de raison d'avoir honte. À t'entendre, on dirait une sorte d'ivresse, dit Sophie en se penchant au-dessus d'une petite table qui se trouvait entre elle et le professeur de philosophie. Incontestablement, la nouvelle conception de l'homme conduisit à une toute nouvelle façon de vivre. L'homme n'existait plus seulement pour servir Dieu. Ce dernier avait aussi conçu les hommes pour eux-mêmes. Il incombait donc aux hommes de se réjouir de la vie ici et là. Et quand l'homme pouvait s'épanouir en toute liberté, ses capacités ne connaissaient plus de frontières, puisqu'il s'agissait au contraire d'aller toujours plus loin. Cela aussi était nouveau par rapport à l'humanisme de l'Antiquité, car les anciens insistaient plutôt sur le repos des sens, la mesure et la maîtrise de soi. Tu veux dire que les humanistes de la Renaissance ont perdu le contrôle d'eux-mêmes? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'étaient pas des champions de la modération. Le monde entier leur paraissait enfin se réveiller d'un très long sommeil. Il y eut une extraordinaire prise de conscience de leur époque qui les conduisit à appeler Moyen-Âge tous les siècles intermédiaires entre l'Antiquité et eux. Et on assista dans tous les domaines à un épanouissement exceptionnel. L'art, l'architecture, la littérature, la musique, la philosophie et la science. Prenons un exemple. Nous avons parlé de la Rome antique qu'on avait surnommée la ville des villes et le nombril du monde. Au cours du Moyen-Âge, Rome tomba dans l'oubli. Et en 1417, la ville qui avait compté jusqu'à 1 million d'habitants n'en abritait plus que 17 000. C'est à peu près la population de l'île Sand. Les humanistes de la Renaissance se donnèrent pour tâche de relever Rome. On entreprit de construire une vaste basilique sur la tombe de l'apôtre Pierre. Concernant la basilique Saint-Pierre, il est clair qu'on ne saurait parler de mesure et de retenue. Divers grands personnages de la Renaissance furent invités à participer à ce qui était, à l'époque, le plus grand projet d'architecture du monde. Le chantier commença en 1506 et s'étendit sur 120 années, et il fallut encore attendre 50 ans avant que la place Saint-Pierre fût tout à fait terminée. Ça a dû devenir une église gigantesque. Elle mesure 200 mètres de long, 130 mètres de haut et a une superficie de 16 000 mètres carrés. Cela en dit assez long sur l'audace des hommes de la Renaissance. Cette époque apporta aussi une nouvelle conception de la nature. Que les hommes se sentent heureux de vivre et ne considèrent plus seulement leur séjour sur Terre comme une préparation à la vie dans le ciel, modifia totalement leur rapport avec le monde physique. la nature devint quelque chose de positif, et Dieu existait au sein de la création. Puisqu'il était infini, il devait pouvoir être partout. On a appelé cette conception le panthéisme. On qualifiait la nature de divine, c'est-à-dire qu'elle était le déploiement de Dieu. On devine que l'Église regarda d'un mauvais œil toutes ces nouvelles idées. Ce qui arriva à Giordano Bruno l'illustre de manière dramatique. Il prétendit non seulement que Dieu était la totalité du réel, mais que l'univers était infini. Ces deux affirmations lui valurent une peine très sévère. Comment ça? Il fut brûlé sur la place du marché aux fleurs de Rome en 1600.
Mais c'est horrible, et surtout complètement idiot. C'est ça que tu appelles l'humanisme?
Non, pas ça. Bruno était l'humaniste, pas ses bourreaux. Il y eut aussi sous la Renaissance un mouvement anti-Renaissance. J'entends par là l'autorité toute puissante de l'Église et de l'État. Ainsi, on jugea des hérétiques et on brûla des sorcières, car la magie et la superstition étaient florissantes. Il y eut des guerres de religion, sans oublier la violente conquête de l'Amérique. L'humanisme a toujours connu un arrière-plan plus sombre. Aucune époque n'a été toute bonne ou toute mauvaise. Le bien et le mal sont deux fils qui traversent toute l'histoire de l'humanité, et bien souvent, ils sont tissés ensemble. Cela est également vrai pour le prochain mot-clé que l'on doit à la Renaissance, à savoir l'apparition d'une nouvelle méthode scientifique. Et c'est à cette époque que l'on a construit les premières usines? Pas vraiment tout de suite. La Renaissance introduisit un nouveau rapport à la science, permettant de grandes innovations techniques. En quoi consistait cette nouvelle méthode? Il s'agissait tout d'abord d'observer la nature avec nos propres sens. Dès 1300, plusieurs personnes exprimaient leurs réserves quant à une confiance aveugle dans les anciennes autorités qu'étaient les dogmes de l'Église et la philosophie de la nature d'Aristote. C'était un leurre de croire qu'il suffisait de réfléchir pour résoudre un problème quel qu'il soit, alors que le Moyen-Âge avait toujours clamé haut et fort la toute-puissance de la raison. On décréta dorénavant que chaque observation de la nature devait être soumise à la perception de nos sens, à notre expérience et à nos expérimentations. C'est ce qu'on appelle la méthode empirique. Ce qui signifie que l'on construit son savoir sur les choses à partir de sa propre expérience, et non à partir de vieux parchemins poussiéreux ou de chimères. Dans l'Antiquité aussi, l'empirisme a existé. Aristote, encore lui, fit de nombreuses et passionnantes observations de la nature. Mais des expérimentations systématiques, ça, c'était radicalement nouveau. Il ne disposait bien sûr pas de tous les appareils d'aujourd'hui. Il n'avait évidemment ni machine à calculer, ni balance électronique. Mais il connaissait les mathématiques, et ils avaient des balances. Il était plus important que jamais de retranscrire toutes les observations scientifiques dans un langage mathématique précis. Mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui ne peut pas être mesuré, dit Galilée, l'un des plus grands scientifiques du XVIe siècle. Selon lui, la nature est écrite dans un langage mathématique. Et toutes ces expérimentations et ces mesures ouvrirent la voie pour de nouvelles inventions? La première phase fut l'élaboration de cette nouvelle méthode. Elle permit une révolution technique qui, elle-même, rendit possible toutes les découvertes ultérieures. En d'autres termes, les hommes commencèrent par se libérer des contingences naturelles. La nature n'était plus quelque chose dont l'homme se contentait de faire partie. Elle devenait quelque chose dont on peut avoir besoin et se servir. Le savoir est le pouvoir, déclara le philosophe anglais Francis Bacon, exprimant par cette phrase l'utilité de la connaissance. Cela était une grande nouveauté. Les hommes s'attaquaient à la nature et s'en rendaient maîtres.
Mais pas seulement de manière positive, n'est-ce pas?
Non. Là encore, le bien et le mal sont intimement tissés dans toutes les actions des hommes. L'essor de la technique, qui s'amorça à la Renaissance, est à l'origine des machines à filer et du chômage. des médicaments et des nouvelles maladies, de la culture intensive et de l'appauvrissement des terres, de l'électroménager, machines à laver et autres réfrigérateurs, mais aussi de la pollution et des problèmes de déchets. Toutefois, cela n'est dû qu'au mauvais usage de la technique et non à la technique elle-même. Derrière toutes les menaces qui pèsent sur le monde d'aujourd'hui, beaucoup voient dans l'essor de la technique un facteur déterminant. D'aucuns soulignent que l'homme a mis en marche un processus qu'il n'est plus en mesure de contrôler. Mais les bonnes âmes optimistes pensent que nous sommes encore dans l'enfance de la technique, et que si la civilisation technique a eu ses maladies infantiles, les hommes apprendront peu à peu à maîtriser la nature, sans pour autant la mettre en danger de mort. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Il y a du vrai dans les deux points de vue. Dans certains domaines, il faut que les hommes cessent de malmener la nature. Mais nous pouvons par ailleurs continuer à agir en toute bonne conscience. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que nous ne retournerons jamais au Moyen-Âge, puisqu'à partir de la Renaissance, l'homme n'a plus seulement été une partie de la création, mais a commencé à transformer la nature et à la modeler à son image. Cela en dit long sur cette étrange créature qu'est l'homme. Nous avons déjà marché sur la Lune? Aucun homme du Moyen-Âge n'aurait cru que c'était possible, non? Ça, tu peux le dire. Cela nous amène à aborder la question de la nouvelle représentation du monde. À travers tout le Moyen-Âge, les hommes vivaient sous le ciel et levaient les yeux vers le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Mais personne n'avait jamais mis en doute que la Terre fût au centre de l'univers. Aucune observation n'avait pu jeter le doute sur l'immobilité de la Terre et le mouvement de rotation des corps célestes autour de la Terre. C'est ce que nous appelons l'image géocentrique du monde, à savoir que tout tourne autour de la Terre. La représentation chrétienne de Dieu, trônant au-dessus de tous les corps célestes, contribuait à maintenir une telle conception. Ah, si tout pouvait être aussi simple! Mais, en 1543, parut un opuscule intitulé « Du mouvement des corps célestes », écrit par un astronome polonais du nom de Nicolas Copernic, et qui mourut le jour même de la parution du livre. Copernic prétendait que ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais le contraire. L'observation des corps célestes lui permettait en tout cas, disait-il, de soutenir une telle affirmation. Lorsque les hommes croyaient que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre, c'était en réalité la Terre qui tournait autour de son propre axe. Toutes les observations concernant les corps célestes s'expliquaient beaucoup plus facilement si l'on partait de l'hypothèse que la Terre et les autres planètes décrivaient un parcours bien défini autour du Soleil. C'est ce que nous appelons une conception du monde héliocentrique, c'est-à-dire que tout tourne autour du Soleil. Et cette conception du monde était juste? Pas entièrement. Sa principale thèse, à savoir que la Terre tournait autour du Soleil, est exacte, bien sûr. Mais il prétendait aussi que le Soleil était au centre de l'univers. Nous savons aujourd'hui que le Soleil n'est qu'une étoile parmi une multitude d'étoiles et que toutes les étoiles autour de nous ne forment qu'une galaxie parmi des milliards d'autres galaxies. Copernic croyait en outre que la Terre et les autres planètes décrivaient des cercles autour du Soleil. Et ce n'est pas exact? Non. L'idée de ces mouvements circulaires venait uniquement de la vieille conception qui prétendait que les corps célestes étaient tout ronds et avaient un mouvement de rotation circulaire parce qu'ils étaient célestes. Depuis l'époque de Platon, la sphère et le cercle étaient considérés comme étant les formes géométriques les plus parfaites. Il fallut attendre le début du XVIe siècle pour qu'un astronome allemand, Johannes Kepler, expose les conclusions d'observations très poussées qui prouvaient que les planètes décrivent des ellipses, c'est-à-dire des trajectoires ovales, le Soleil étant l'un des deux foyers. La vitesse des planètes augmente au fur et à mesure que celles-ci se rapprochent du Soleil, et inversement, les planètes ralentissent lorsqu'elles s'en éloignent. Kepler fut donc le premier à mettre la Terre sur le même plan que les autres planètes et à affirmer que l'univers tout entier est régi par les mêmes lois physiques. Comment pouvait-il en être aussi sûr? parce qu'il avait analysé le mouvement des planètes en réinterprétant les observations des astronomes de l'Antiquité. À la même époque que Kepler, vivait le célèbre savant Galilée, qui examinait les corps célestes au télescope. Il étudia les cratères de la Lune et mit en évidence que s'y trouvaient des montagnes et des vallées exactement comme sur la Terre. Il découvrit en outre que la planète Jupiter avait 4 lunes. La Terre n'était donc pas la seule planète à avoir une lune. Malgré tout, la contribution essentielle de Galilée fut d'avoir été le premier à formuler ce qu'on a appelé la loi de l'inertie. C'est quoi ? Galilée la formule en ces termes. La vitesse originelle d'un corps céleste se maintiendra très exactement tant que les causes extérieures d'accélération ou de ralentissement n'interviennent pas. Je ne vois pas le problème. Mais si, c'est une observation importante. Car depuis l'Antiquité, un des arguments majeurs contre la théorie de la rotation de la Terre avait été de dire que si cette théorie était juste, une pierre lancée droit en l'air aurait dû retomber plusieurs mètres plus loin. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Si tu te trouves dans un train et que tu laisses tomber une pomme, la pomme ne tombera pas plus loin vers l'arrière du fait que le train avance. Elle tombera tout droit, à cause de la loi d'inertie. La pomme conserve la vitesse qu'elle avait avant que tu ne la laisses tomber. Je commence à comprendre. Bien entendu, les trains n'existaient pas à l'époque de Galilée. Mais si tu fais rouler une bille sur le sol et que soudain tu la lâches, la bille continue de rouler, parce que la vitesse est maintenue même après que la bille a été lâchée. Mais elle finira bien par s'arrêter toute seule si la chambre est assez grande. Oui, parce que d'autres forces freinent sa vitesse. Il y a d'abord le sol, surtout s'il s'agit d'un parquet de bois non traité. Puis il y a la pesanteur, qui tôt ou tard arrêtera la bille. Mais attends une seconde, je vais te montrer quelque chose.